Chapitre 13. Le lendemain. Villa Ben Khalif, 13h45. Je descends les escaliers de la villa pour accéder au salon. Mathieu regarde la télé. Quand il entend le bruit de mes bottines, il se retourne. Il me scrute et se fend d'un sourire qui ne présage rien de bon. Je me rapproche de lui dubitative. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?»« Tu penses sérieusement qu'Amir va te laisser sortir habillé de la sorte ?» ricane Mathieu. Je hausse les sourcils. « Pour commencer, je suis habillée normalement. Ensuite, Amir n'a pas son mot à dire sur mon style vestimentaire. Je suis vêtue d'un haut bustier noir et d'un pantalon de la même couleur, taille haute, plus ample vers le bas. Je me doute qu'Amir va faire une crise en voyant que ma tenue moule mon corps et que je n'ai pas mis de soutien-gorge. Il fait chaud, je vais pas m'habiller avec une combinaison de ski pour faire plaisir à Amir.
« Je t'aurais prévenu !»
dit Mathieu en haussant les épaules. Amir entre dans le salon, il était dans la cuisine. Son regard bute sur ma tenue et plus particulièrement sur mon haut. Il contracte la mâchoire et j'opte pour la nonchalance. Mathieu se moque, je lui fais un gros doigt d'honneur.
« Tu comptes sortir comme ça ?»
me lance Amir. « Pourquoi ?»«
Réponds à ma question »
exige-t-il. Je hausse les sourcils face à son ton qui ne laisse aucune place à la contestation. « Réponds à la mienne. »
« Tu crois que tu vas sortir avec un haut qui laisse voir tes seins ? Je te conseille d'aller enfiler un soutien-gorge et de te changer si tu veux pas m'énerver. »
Je rêve. Je ne savais pas qu'Amir Ben Khalif était devenu styliste pour femmes. Je suis loin d'être vulgaire avec cette tenue et je ne compte absolument pas me changer. Je rétorque. Je le défie du regard.
« Tu me prends pour qui, là ? Tu crois que je vais laisser ma femme sortir comme ça pour que tous les trous du cul du coin lui sautent dessus ?»«
Avant d'être ta femme, je suis Kiara. Je sais gérer les hommes insistants. »«
Je pense que je vais vous laisser, » déclare Mathieu.
Amir affiche un sourire en coin. Ce changement de comportement me fait craindre le pire.
« D'accord, sors comme ça, » dit-il. « Il n'y a aucun souci, t'es une grande personne. »
Il a forcément une idée en tête, c'est sûr et certain. Laquelle ?
Tu as de la fièvre, Amir ?
Demande Mathieu, choqué.
Non, je me sens très bien,
répond-il d'un ton léger. Il se rapproche de moi et dépose un baiser sur ma nuque. Je croise mes bras sur ma poitrine, vraiment perplexe. Amir prépare quelque chose, un truc qui ne va pas me plaire.
Amuse-toi bien dehors,
me conseille-t-il. Je lui lance un regard suspicieux. « Qu'est-ce que tu manigances ?» Il adopte une mine faussement blessée, puis il se tient le cœur comme s'il avait mal.
« Comment tu peux croire ça de moi ? C'est si extraordinaire que je te fasse assez confiance pour te laisser t'habiller comme ça ?»«
Totalement !»
intervient Mathieu.
« Je te rappelle que tu es un jaloux maladif. Je la laisse faire comme elle le sent. De toute façon, il faut que je téléphone à la professeure d'Iliane pour prendre rendez-vous avec elle. J'aimerais savoir si Iliane se comporte bien. »
Ordure. Il allait me contourner, mais je lui attrape violemment le bras. Il fait semblant d'être choqué. Tu te trouves drôle ? Il est hors de question que t'ailles voir cette femme.
Je n'irai pas voir cette femme si tu mets une veste.
Se moque-t-il. Je grince des dents et finis par céder. Il sourit, fier de lui. Il passe un bras autour de mon cou malgré ma fureur. Mathieu nous regarde à tour de rôle, puis il se met à rire.
Vous vous êtes vraiment bien trouvés tous les deux.
Il quitte la pièce. Amir me lâche et se replace face à moi. Je l'observe toujours aussi mal, tandis qu'il sourit comme un imbécile.
Je suis plus fort que toi, tu devrais le savoir.
Me nargue Amir. T'es qu'un manipulateur. Je crache avec rage. Il hausse les épaules, détaillant mon haut avec appétit. Il m'attrape ensuite par la taille et m'attire vers lui. Approche ses lèvres de mon oreille qu'il mordit, à mon grand plaisir.
J'aime bien ce genre de tenue, mais seulement quand je suis le seul à pouvoir t'admirer.
Je souris.
J'ai bien envie de profiter un peu de toi, poupée.
Je te rappelle que tu dois être abstinent tant que tu n'es pas complètement sous contrôle. Je le taquine. Il fouille dans la poche de sa veste et en sort une seringue. Je croyais que tu n'en avais plus. Je m'étonne.
Je le croyais aussi, mais j'en ai trouvé une de secours que j'avais planquée dans mon bureau.
Garde-la précieusement, elle peut être utile.
Je lui recommande.
Pourquoi ne pas l'utiliser maintenant ?
Tante Amir. Son propos est rempli de sous-entendus. Ne gaspille pas cette seringue. Je réponds.
Il soupire, puis la glisse dans une poche arrière de son pantalon.
Je le détaille de haut en bas. Il est incroyablement beau. Il porte une chemise et un pantalon de costume noir, assorti d'une paire d'italiennes. Nous sommes parfaitement raccord, comme d'habitude. En même temps, ce n'est pas difficile, puisque nos garde-robes sont majoritairement composées de noirs.
Où est-ce que tu vas ?
Je demande à Amir.
J'ai rendez-vous avec un nouveau fournisseur.
Tu veux que je t'accompagne ?
Je connais pertinemment la réponse, mais qui ne tente rien à rien.
Non. Tu emmènes des hommes à toi pour assurer ta sécurité ?
Où est Aïmen ?
Il sourit.
Tu t'inquiètes pour moi ? Je sais me défendre seul. Aïmen est allé récupérer Erika à l'aéroport. Je te rappelle que c'est moi la sécurité, poupée.
D'une arrogance sans nom. Je suis contente qu'Erika revienne parmi nous. C'est une femme respectable qui rend heureux Aïmen. Et puis ça fera du bien à Aïmen, un peu de bonheur après la perte de Dilara.
Tu ne veux vraiment pas que je vienne avec toi ?
Je pourrais être utile.
Je préfère te savoir en sécurité ici,
réplique-t'il. Je comprends que ça ne sert à rien d'essayer de le convaincre.
Si tu sors,
reprend Amir,
contacte mes hommes pour qu'ils viennent avec toi.
Je n'ai pas besoin d'une escorte.
Ne fais pas l'enfant.
Tu refuses d'être assisté, c'est pareil pour moi.
Je rétorque en haussant les épaules. T'es bien trop têtu.
C'est pour ça que tu m'aimes. Je m'interromps en réalisant ce que j'allais dire. Amir est intrigué par ma gêne.
Pourquoi tu ne finis pas ta phrase ?
Laisse tomber. Il compte insister, mais son téléphone vibre. Il le sort de sa poche et lit un message. Une fois cela fait, il range son téléphone et dépose un baiser sur ma nuque, puis il se recule.
« Je ne rentre pas tard »,
me prévient-il. Il me tourne le dos, puis il s'en va. 17h59. Je marche depuis une bonne trentaine de minutes. J'avais besoin de me vider l'esprit et de m'aérer, c'est pourquoi j'ai laissé ma voiture à la villa. Une voiture s'arrête juste à côté de moi. Son conducteur n'est autre que Larbi. Je souris instinctivement. Mais quand je vois Ahmed descendre de l'arrière de la voiture, je me glace. Je mime l'indifférence alors qu'il me contemple avec
joie.
Ça faisait longtemps, dit-il. Il porte un smoking vert kaki et lui aussi une paire d'italiennes noires. Il s'habille toujours bien pour une ordure dans son genre.
Visiblement pas assez,
je réponds.
Je voulais juste te voir.
Tu m'as vu, maintenant remonte dans ta voiture. Je lui ordonne.
Je t'ai vu sortir de la villa d'Amir à pied, alors je t'ai suivi pour m'assurer qu'il ne t'arrive rien sur la route.
Le monde à l'envers. Je me demande s'il pense que je suis assez naïve pour le croire.
Tu m'espionnes, de mieux en mieux.
Je veille juste sur toi, me corrige mon père. Je n'ai pas besoin de ta protection ni de ton intérêt. Tu as 20 ans de retard. Je balance avec mépris.
Pourquoi tu ne me laisses pas une chance de me rattraper ?
Il tente de me faire de la peine en m'adressant un regard triste et en soupirant. Mais je ne suis pas la méchante dans cette histoire. Je refuse de lui donner une nouvelle opportunité de me blesser. Je ne veux pas croire en lui et apprendre qu'il se sert de moi pour atteindre Amir ou obtenir la puce. Comment tu peux avoir le culot de me poser cette question ?
Reste loin de moi, pour notre bien à tous les deux.
Je rétorque en croisant les bras autour de ma poitrine.
Je veux réparer mes erreurs. Je te demande seulement de me faire une place dans ta vie,
me supplie Ahmed. Je ne sais pas pourquoi il se rabaisse autant à quémander mon attention.
Je ne veux pas de toi, comprends le bien.
Tu crois quoi ? Que parce que tu m'as sauvée, je suis obligée de te pardonner ?
Tu te trompes complètement. Tu as mis ma vie en danger tellement de fois que j'ai cessé de compter, alors ne crois pas que, pour une seule bonne action, je vais oublier tout le reste.
Il soupire et tente de m'attraper la main. Je recule d'un pas et le repousse en grognant.
J'aimerais sincèrement que notre relation s'améliore. Tu restes ma fille et je suis ton père. T'es ma seule famille et inversement,
me dit-il. Nous partageons le même sang, c'est tout. T'es pas mon père, et je suis pas ta fille au-delà de ça.
Nous sommes inconnus l'un pour l'autre.
Je rectifie. Mon téléphone sonne. Je le sors de ma poche et peste en voyant un numéro inconnu. Je décroche.
Bonjour, Chiara.
Gonzalo. Il manquait plus que lui. Ils ne veulent pas me laisser un peu de répit ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je l'interroge.
Tu pourrais me demander de mes nouvelles, non? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé.
Cesse de me faire perdre mon temps.
Je vais t'envoyer une adresse. Ton mari et moi allons nous entretenir. J'aimerais que tu nous fasses l'honneur de te joindre à nous.
Me dit-il d'une voix enjouée. Il ne me laisse même pas le temps de répondre qu'il raccroche. Je serre mon téléphone dans ma paume et il se remet à vibrer. Je consulte l'adresse. C'est bien trop loin d'ici à pied. J'aurais dû prendre ma voiture. Si j'appelle Ayman pour qu'il vienne me chercher, il risque de prendre trop de temps. Amir peut vite devenir incontrôlable. Il faut que j'aille là-bas le plus rapidement possible. Je regarde Ahmed, puis sa voiture. À mon grand regret, je n'ai pas d'autre choix que de demander de l'aide à mon père. J'inspire profondément. Je veux que tu me prêtes ta voiture. Amir a besoin d'aide. Une lueur inexplicable s'allume dans ses iris. Bien sûr, mais à une condition. Évidemment, il ne peut rien faire de façon désintéressée. Qu'est-ce que tu veux ? Je le questionne en haussant les sourcils. Laisse-moi t'accompagner avec Larbi. On veillera sur toi. Je masque mon étonnement. Je n'ai pas le temps de débattre avec ce malade. J'accepte et je monte à l'arrière, à côté d'Ahmed. Je souris à Larbi à l'avant. Il me le rend, visiblement gêné. Ça me fait plaisir de le revoir malgré tout ce qui s'est produit. Je n'oublie pas tout ce qu'il a fait pour moi.
Toit d'un immeuble, 17h59. Si tu voulais me parler, tu n'étais pas obligé de te faire passer pour un fournisseur. Je balance. Gonzalo se tient devant moi. Il se rapproche et je me rends compte que sa jambe gauche est plus faible que la droite, puisqu'il boite nettement. Il s'agit de la jambe sur laquelle j'ai tiré lors de notre dernière confrontation. Sa main droite est bandée depuis que j'ai coupé deux de ses doigts. Gonzalo n'est pas venu seul, il est accompagné d'un homme. Un homme grand, musclé, avec des yeux globuleux verts, le teint pâle et un crâne chauve portant de nombreuses cicatrices. Cet homme ne laisse percevoir aucune émotion. Il apparaît comme vide de sentiments. Gonzalo me fixe avec haine. Il veut sa vengeance, et il est prêt à tout pour ça. Je me doutais que ce rendez-vous avec un nouveau fournisseur était étrange, et je sentais que Gonzalo allait faire une apparition. Mais ce n'est pas pour autant que je me suis dégonflé. « Tu es dans un état misérable, » je lance. « À qui la faute ?»« Je suis fier de moi, » je me moque. « Ferme-la. »« Qu'est-ce que tu veux encore ? Je n'ai pas de temps à t'accorder. »« Il est temps pour toi de rejoindre tes ancêtres. Je te présente Yona, celui qui va t'arracher la vie. Tu te crois invincible ? Face à Yona, tu n'es qu'une vulgaire fourmi. » Je pose mon regard indifférent sur l'homme. Je ne suis pas impressionné par ce gros tas de muscles. J'ai combattu des hommes plus musclés et plus grands que ce type. On n'atteint pas la position d'Amir Ben Khalif en ayant peur d'une simple apparence. Je hausse les épaules, puis tourne le dos aux deux hommes. « Ton subalterne est aussi minable que toi, » j'ironise. « Je n'ai pas de temps pour vous aujourd'hui. J'ai dit à Chiara que je rentrerai tôt. Je compte tenir mon engagement. J'aimerais éviter de rentrer blessé ou taché par le sang de ce molosse. Je les salue d'un signe de main, puis me dirige vers la porte des escaliers pour redescendre. Yona est mon homme de main sorti d'hôpital psychiatrique. Il est aussi celui qui a planté un couteau dans l'œil de Sam et qui a tranché sa main à l'aide d'une hache, déclare Gonzalo. Tu comptes tourner le dos à celui qui a mutilé puis tué le père de cœur de ta femme? Tu te rappelles l'état de Chiara quand Sam est mort? Comment tu peux refuser de te battre après ce qu'elle a enduré? Il est celui qui a mutilé ce pauvre Samuel Cruz, puis qui a actionné la bombe responsable de sa mort. Je me remémore avec rage la peine et le désarroi de Chiara suite au décès de Sam. Elle était inconsolable. Elle se sentait coupable et ne faisait que pleurer. Je me souviens de tout. Ses pleurs, ses hurlements, ses tremblements, sa colère, ses vomissements, sa tristesse. Ses difficultés à respirer. Je revois Chiara en pleurs, recroquevillée dans les douches de la salle de sport de la villa. Je me souviens surtout que mon cœur se serrait quand je la voyais dans un état aussi déplorable. Rien n'a été oublié. Je ne peux pas laisser ce type en vie. Je dois préserver ma femme. Je lui avais promis qu'il paierait le triple. Ma mâchoire se contracte. Je ne laisserai personne lui rappeler ce souvenir douloureux. Je préviens Gonzalo. Je n'avais pas prévu de me battre aujourd'hui, mais je vais devoir te tuer. Pour te faire payer ce que tu as fait à Sam et pour la douleur que tu as provoquée en elle, je l'avertis. Je me tourne vers mes ennemis et plante mes yeux dans ceux de Yona, sans trahir aucune émotion, ni haine, ni tristesse. Yona est une cible à abattre pour préserver Chiara. Ton tour viendra, Gonzalo. Un jour, je t'abattrai. Tu regretteras toutes ces fois où tu aurais pu te suicider pour m'échapper. Je le préviens. Gonzalo s'en amuse. Yona est excitée de se retrouver face à un adversaire plein de fougue. Il tente de me donner un coup de poing en pleine face, mais je me baisse. Je lui rends un coup en plein ventre, mais sa mine joyeuse ne le quitte pas. Il essaie de m'envoyer une droite en pleine mâchoire. J'attrape sa main en plein vol. Tu crois que tu peux me faire la guerre parce que tu es sorti d'un hôpital psychiatrique? Je suis encore plus fou que toi. Tu ne peux même pas imaginer à quel point. Je ricane. Il relâche brutalement sa main et je lui balance un crochet du droit en pleine mâchoire. Il se met à cracher du sang, mais il continue de sourire. T'es à fond, là? Ricane Yona. T'es qu'un gosse. Si j'étais à fond, tu ne pourrais plus ouvrir ta gueule. Nous nous observons attentivement. Je lance un coup de pied dans ses côtes qu'il esquive. J'envoie mon poing dans sa mâchoire, puis j'enchaîne avec un coup de pied dans son ventre qu'il repousse brutalement. Il tousse et crache encore du sang. Il fonce vers moi et me frappe en plein visage. Le sang jaillit de ma bouche. Je l'essuie d'un revers de manche. « Tu mérites ton titre, héritier des Benralif. » Je ne me bats pas en tant qu'héritier de cette famille, mais en tant qu'Amir. « Celui qui défend l'honneur de sa femme et qui venge les larmes qu'elle a versées à cause de toi. » Je réponds amèrement. « Il a été facile de tuer ce vieillard. Il n'a pas voulu livrer ta précieuse femme, donc il méritait de crever comme un chien. » Je ne lui accorde aucune importance. Mais je lui assène un énorme uppercut suivi de violents coups de poing en plein ventre. J'en profite pour lui mettre un coup dans le genou droit qui fait tomber le molosse au sol. « Je vais t'arracher la vie !» je crie. Je monte sur lui et le roue de coups au visage. Il finit par perdre sa fierté. Il ne s'attendait pas à ce que je détienne autant de force et de vivacité. Je laisse ressortir toute ma haine envers cet homme et toute ma frustration de ne pas obtenir la puce malgré mes sacrifices. Je suis aveuglé par ma rage et ma rancœur. Je m'apprête à passer mes mains autour du cou de Yona pour l'étrangler quand j'entends le bruit de quelque chose qui tombe au sol. La seringue, elle est tombée de ma poche. Yona profite de ce moment d'inattention pour me lancer un crochet du droit. Je crache du sang. Il tacle le sol et attrape la seringue qu'il plante dans mon cou. Puis il appuie pour en déverser le contenu dans mon corps. J'ouvre grand les yeux sous le choc et je me mets à jurer. Je sens mes forces me quitter. Je serai bientôt incapable de bouger. Mon corps s'écroule au sol, sous les rires de Yona et Gonzalo. Il suffisait de te droguer pour que tu deviennes docile, s'esclave Gonzalo. Yona crache énormément de sang. Il se relève et attrape mon corps qu'il soulève de ses deux mains. Je ne peux me défendre. Yona est salement amoché. Son visage est rempli de blessures, son nez semble cassé, ses lèvres sont fendues et du sang coule de celles-ci. L'un de ses yeux ne s'ouvre plus. Sa joue droite est ensanglantée. Ses paupières sont gonflées et son front saigne abondamment, comme son arcade sourcilière. J'essaie de contrôler mon corps, mais c'est impossible. Je suis conscient de ne pas pouvoir bouger et que les effets de la seringue ne s'estomperont que dans quelques minutes. Yona et Gonzalo vont profiter de ce moment pour me martyriser. Je suis impuissant. Yona me rapproche du rebord de l'immeuble, à bout de bras. Il me hisse en l'air, tout en souriant. Je vois la rue en bas et comprends que cette ordure compte me jeter du toit pour que je crève. Personne ne peut survivre à une chute pareille.
Je monte les escaliers de l'immeuble en vitesse, suivi par Ahmed et Larbi, qui ont insisté pour venir avec moi. J'arrive au dernier étage et la vue qui s'offre à moi m'horrifie. Amir est maintenu par un homme juste au-dessus du vide. Il suffit qu'il le lâche pour qu'il s'écrase en contrebas. Il me remarque, mais ne bouge pas. Il n'essaie même pas de se défendre, et quand je distingue la seringue au sol, je comprends qu'on la lui a injectée de force. Gonzalo me sourit. « Tu devrais partir, Chiara. Ton heure à toi n'est pas encore venue. Amir et moi avons de vieux comptes à régler. » Ricane Gonzalo. « Je vais te tuer !» Je crie. Je venais lui sauter dessus, mais Ahmed m'attrape par le bras pour m'attirer contre lui. Il me serre si fort qu'il m'empêche de bouger. « Lâche-moi !» Je proteste. « Il est hors de question que je te laisse risquer ta vie pour ce moins que rien. Laisse-le crever et partons. Il a une liste d'ennemis interminables et ça te porte toujours préjudice. » Hurle Ahmed. Ses propos me choquent, quoiqu'il n'ait jamais caché son mépris pour Amir. Mais comment peut-il croire que je vais l'abandonner ? « Je ne te demande pas ton avis, » je rétorque. « Je t'ai demandé de me lâcher, fais-le !» Il continue de me maintenir malgré mes protestations. Je ne lui connaissais pas autant de force. « Je ne vais pas te laisser crever !» je crie. « Si vous voulez protéger votre fille, faites-la partir d'ici !» intervient Gonzalo. « Ce ne sont pas nos affaires !» insiste Ahmed. « On s'en va !» L'homme qui tient Amir rigole. Je fixe Amir avec les larmes aux yeux. Son front ruisselle de transpiration. Je devine qu'il n'est pas inquiet pour lui, mais pour moi, alors que c'est lui qui est suspendu dans le vide. L'homme de main de Gonzalo secoue Amir. Il le lâche subitement, mais le rattrape avant qu'il ne tombe. J'ai hurlé en croyant qu'Amir allait s'écraser, alors que mon père refuse toujours de me laisser. « Tu ne comprends pas ou quoi ? Je ne veux pas vivre sans Amir. Lâche-moi tout de suite, putain !»« Je ne veux pas que tu meures !» confesse Ahmed en soupirant. Je sors un couteau de l'arrière de mon pantalon et le plante en plein milieu de la main d'Ahmed, qui lâche sa prise. Sa main se met à saigner abondamment et il hurle de douleur. Ahmed est pétrifié, terrorisé par mon regard. Un regard qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il comprend que s'il se dresse contre moi pour protéger mon mari, je n'hésiterai pas à le tuer cette fois. Il ne bouge plus et je lui tourne le dos. Gonzalo et Yona sont tellement surpris par mon intervention qu'ils n'ont même pas le temps de réagir. Je cours vers Yona et lui saute dessus pour lui planter mon couteau dans le cou. Il hurle et me dévisage, choqué, tandis que son sang me gicle dessus. Il relâche Amir et s'écroule au sol en se vidant de son sang. Amir est sur le point de tomber du toit, mais je parviens à attraper sa main droite. Je tire son corps même s'il est bien plus lourd que moi. Des gouttes de sueur perlent sur mon front. « Accroche-toi, Amir !» Son corps pend dans le vide. « Je ne vais pas te lâcher, même si je dois tomber avec toi, je te le promets. » Je lui assure. Ma voix tremble, j'ai les larmes aux yeux. Larbi, Gonzalo et Ahmed ne bougent plus, à la fois fascinés et tétanisés. Ils se rendent compte de ma dangerosité. Ils comprennent que je prendrai les armes sans hésitation pour protéger cet homme. Que notre couple n'est pas comme les autres. J'essaie de remonter Amir, mais il est bien trop lourd pour moi. Et puis, mes mains glissent.